E-Radio, l'invité de la rédaction. Vincent Lepape.
Bonjour Philippe Créange.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier avec votre confrère Benjamin Keltz le roman graphique La frontière bretonne aux éditions Des coins de la rue, un ouvrage illustré par Eudes. À travers ce roman graphique, vous vous attaquez à la question de la réunification de la Bretagne, un débat quelque peu sensible. Cette question de la réunification de la Bretagne est une question récurrente de la vie politique française. Pourquoi avez-vous souhaité vous y attaquer à travers ce roman graphique ?
Parce que avec Benjamin Keltz, nous sommes tous les deux journalistes. Particulièrement de mon côté, je couvre l'actualité régionale en Bretagne pour le quotidien Le Télégramme. Et depuis déjà plusieurs années, je vois que ce sujet revient régulièrement dans l'actualité. Donc je m'y suis penché un peu plus. Et puis j'ai constaté évidemment que depuis des décennies, ce sujet revenait sur le devant de la scène sans que finalement il avance vraiment. Donc en tant que journaliste, là, j'ai identifié une forme de blocage et c'était un point de départ pour une enquête. Et j'ai proposé ça à Benjamin Keltz, qui est aussi éditeur, et puis il a dit banco pour réaliser cette enquête, et notamment sous forme de roman graphique, de bande dessinée, pour qu'il soit plus accessible possible.
Avant de parler de réunification, évoquons la séparation. Depuis quand ce qu'on appelle la Loire-Atlantique ne fait plus partie de la Bretagne?
Déjà, je tiens à préciser que je ne suis ni militant d'une quelconque cause, ni historien. Nous sommes avec Benjamin journalistes, donc on avance des éléments, différentes pièces de ce puzzle complexe pour que chacun puisse se faire sa propre idée en fait de cette question. Pour répondre précisément à cette question historique, la Bretagne a vécu différentes périodes, un royaume, un duché, une province, et puis évidemment il y a la période de Vichy avec le maréchal Pétain qui a acté la séparation de la Loire-Atlantique avec les quatre autres départements bretons. Et d'ailleurs c'est souvent un point que certains mettent en avant, savoir que ce serait le maréchal Pétain finalement qui a déterminé ce qu'était la région, la future région Pays de la Loire en séparant la Loire-Atlantique. C'est allé un peu vite en besogne. D'une part, il faut parler de la Révolution française qui séparait en fait les provinces existantes en départements. Et déjà, la Loire-Atlantique a vécu un peu sa propre identité par rapport aux autres départements de la Bretagne actuelle administrative. Et puis ensuite, le maréchal Pétain a certes acté une séparation, mais derrière, pendant les décennies qui ont suivi, personne, aucun gouvernement n'a remis véritablement en cause cette séparation-là. Donc je dirais que tout le monde est un petit peu responsable.
Mais alors justement, ça fait quand même assez longtemps que la Bretagne était séparée de la Loire-Atlantique. Comment expliquer que ça soit encore aujourd'hui une question ?
Bah parce que je crois que la question des identités, et on le voit, je dirais malheureusement, dans certaines zones du monde, et y compris d'Europe actuellement, avec ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la question de l'identité reste très importante pour beaucoup de gens. Et alors, il y a les identités nationales et puis des identités aussi régionales. Alors, certains diront que la Bretagne peut être une nation, mais c'est un autre débat et je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, cette question d'identité percute chacune de nos vies personnelles. Et pour certains, la Bretagne est suffisamment importante à leurs yeux pour que on mette cette question-là de la réunification et donc de l'identité sur la place publique en permanence. Et puis encore une fois, comme le sujet est latent, mais il n'a jamais vraiment été tranché par un gouvernement, eh ben, il reste là et on est toujours en train d'en parler.
Votre enquête a duré 2 ans. Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ignoriez jusqu'alors ?
Oui, j'ai découvert notamment un haut fonctionnaire qui s'appelle Serge Antoine, qui dans les années 50 s'est vu confier la mission de réfléchir aux prémices des futures régions qui verront le jour un peu plus tard, dans les années 60. Et ce haut fonctionnaire est parti déjà de la carte qu'avait établie le maréchal Pétain, sans la remettre en cause. Et puis ensuite, il a superposé différentes cartes les unes sur les autres, notamment des communications téléphoniques entre les différents départements pour savoir qui communiquait le plus avec qui. Et puis là, avec son épouse qui était ambidextre et qui savait dessiner, bah, ils ont commencé à établir des régions en France. Et c'est ce qui servira de base à la création véritable des régions dans les années 70. Et s'agissant de la Bretagne, bah, ce haut fonctionnaire a jugé que la Bretagne à quatre départements finalement était assez homogène et que la Loire Atlantique avec ses départements voisins Maine-et-Loire, Vendée était aussi homogène, donc il en est resté là.
Ce qui est aussi assez curieux durant votre enquête, c'est que vous démontrez que en fait chaque personnalité politique que vous avez interrogée, il y en a quand même quasiment plus d'une dizaine facilement, peu importe son bord politique, peu importe qu'elle soit pour ou contre, d'y être attachée à l'identité bretonne et à la Bretagne.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut séparer la question du sentiment breton de celle des frontières administratives bretonnes. Et en effet, vous avez raison de le souligner, dans ce livre qui met en avant à la fois des acteurs, des responsables politiques qui sont favorables à la réunification et puis d'autres qui ne le sont pas, ils sont au moins tous d'accord sur une chose, c'est que oui, ils ne remettent pas en cause en tout cas l'histoire bretonne de la Loire-Atlantique. Personne ne le fait.
Pour cette enquête, vous avez donc interviewé des dizaines de politiques. Est-ce que pour certains, c'était plus compliqué que d'autres de les faire parler sur ce sujet ?
Oui, je pense à un en particulier qui est l'ancien président de la République, François Hollande, qui a engagé la réforme territoriale de 2014, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, sans doute parce que sa réforme n'était peut-être pas la meilleure du monde et qu'il n'avait pas spécialement envie de la défendre à nouveau. Ceci étant, on a réussi à avoir Manuel Valls, qui était Premier ministre et qui a mis en œuvre cette réforme. Et c'était assez intéressant de voir, lui, son regard sur cette question de l'identité régionale.
Est-ce que vous pensez que cette question bretonne peut réellement s'implanter dans l'agenda politique ? Certains de nos concitoyens et élus peuvent avoir d'autres priorités, avec notamment la guerre en Ukraine, l'inflation et l'hiver qui arrive.
Oui, vous avez raison déjà de dire cela. La question de la réunification de la Bretagne, ou de la non-réunification de la Bretagne d'ailleurs, parce que ça devrait être c'est au cœur de notre enquête, n'est pas prioritaire aux yeux des enjeux dont vous venez de parler, qui sont bien, bien supérieurs. Ceci étant, on a toujours des militants qui sont très actifs, qui eux considèrent que ce sujet doit perdurer et doit avancer. Et puis on a aussi des responsables politiques, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où on a des élus, des députés bretons qui ont annoncé travailler sur une proposition de loi pour lancer une consultation en Loire-Atlantique sur cette question de la réunification.
Mais est-ce que cette question bretonne, c'est pas aussi un risque de rouvrir une boîte de Pandore ? Si on satisfait les exigences d'une partie de la France, est-ce qu'on ne devrait pas alors satisfaire les exigences de toutes les régions? Il y a notamment le cas de la Corse. On peut aussi penser à certaines parties du territoire de l'Union européenne, notamment le cas catalan.
Intéressant que vous employiez le terme de boîte de Pandore, parce que c'est exactement ce que nous dit Manuel Valls dans ce livre. Si on va trop loin dans ce dossier de la réunification de la Bretagne, c'est la réflexion qu'il avait eue, lui, à l'époque, en 2014, quand ils ont lancé cette réforme. Il y a un risque de séparatisme. Alors, Manuel Valls a une histoire personnelle aussi qui, sans doute, pèse avec la Catalogne. Peut-être dans son esprit, il se dit que si on crée les conditions d'une région à 5 départements qui sera forcément plus forte, et notamment économiquement, et avec une identité très forte également, c'est lui donner peut-être des ailes et qu'elle demande beaucoup plus ensuite, quid de l'indépendance. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de partisans de l'indépendance dans cette région, mais en tout cas, aux yeux de Manuel Valls, le risque est élevé, et en effet, derrière, ça peut faire des boules de neige avec d'autres régions.
Le Conseil régional de Bretagne souhaite engager l'horizon en 2024 une procédure législative en vue d'aboutir à une consultation sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'on va finalement aboutir à un référendum sur cette question ?
Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Les militants, eux, y croient dur comme fer. Je vous le disais tout à l'heure, on a des députés qui vont essayer de lancer une proposition de loi. Il y a l'année prochaine aussi la révision constitutionnelle qui va s'intéresser au cas Corse. Et je sais que des élus bretons espèrent mettre un pied dans la porte pour y inclure le cas breton. Donc, est-ce que ce référendum verra le jour ou non ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on risque d'en parler encore longtemps.
Merci Philippe Créange d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que votre roman graphique La frontière bretonne est disponible depuis le 2 novembre en librairie.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.